franceinter.fr.
Pop, etc. Avec Valérie sur France Inter.
Pour moi, il représente la quintessence de la fin du disco, le rock qui se cherche, le hip-hop qui se crée, la house qui commence à arriver. C'est Compass Point à Nassau, le studio de Chris Blackwell, c'est Wally Badarou qui est quelques mètres derrière, c'est Steven Stanley au mix, c'est Grace Jones, Larry Devon, le summum de ce qui fait bouger les jambes. C'est un groupe culte pour les DJ, pour les clubs, et puis c'est un groupe qui ne sont pas beaucoup à faire la charnière entre ces deux sœurs jumelles qu'on présente parfois ennemies, qui sont le hip-hop et la house, qui sont nées au même endroit, pour la même raison, de la même manière, avec les mêmes machines, qui pour moi sont indissociables l'une de l'autre, mais souvent on fait une différence entre les deux. Et je crois que Tom Tom Club est autant apprécié de fans de hip-hop que de fans de house, ou même de fans de rock ou de fans de pop. Ils ont une espèce de... Ils sont vraiment au croisement des chemins. La musique en arc-en-ciel. Pas de couleur, pas de sexualité. Ouvert à tout le monde, que vous soyez portoricain, gay, que vous soyez hétéro, hipster, stretch. Vous avez le droit d'être à Tom Tom Club.
C'était le DJ Benoît, rencontré au concert de Tom Tom Club à Paris, à la Maroquinerie, le 30 juin dernier. C'est Chris France et Tina Weymouth, la section rythmique de Talking Heads, qui fondent ce groupe au début de 1981. L'année précédente, Talking Heads sortent leur quatrième album coup de poing, Remain in Light. Après 5 années de tournée, ils font une pause. Leur batteur et bassiste, mari et femme, Chris et Tina décident d'explorer les courants musicaux qui inondent New York, via les Bahamas. Chris France et Tina Weymouth sont mes invités ce soir. Je les ai rencontrés le lendemain de leur concert près de Père Lachaise, où on a déjeuné ensemble dans un bistrot typiquement parisien.
Un petit plat, s'il vous plaît.
C'est gentil.
Autant que Talking Heads rythme mes années universitaires à New York, Wordy Rapping Hood, extrait du premier album de Tom Tom Club, accompagne mon arrivée à Paris en 1981. À Paris, c'est les jeunes gens modernes, le post-punk français. À New York, ce sont les débuts du rap depuis 2 ans. Lorsque je fais référence à la naissance du hip-hop, Tina s'en souvient avec bonne humeur.
Il a fallu 2 couples mariés, Chris France et Tina Weymouth de Tom Tom Club et Chris Stein et Debbie Harry de Blondie, pour qu'ils découvrent le hip-hop et avoir le courage de dire « Ok, nous ne sommes peut-être pas les meilleurs à faire ce truc rap, mais nous l'aimons et nous voulons lui rendre hommage en l'intégrant dans notre œuvre. » Et ça a aidé. Ça a aidé à introduire le hip-hop dans le mainstream de l'Amérique blanche.
What's up?
Wordy Rapping Hood de Tom Tom Club, sorti en 1981. Chris France et Tina Weymouth sont mes invités ce soir pour parler de leurs deux groupes, Tom Tom Club et Talking Heads. Il y aura aussi le témoignage du musicien Wally Badarou.
Pop, etc. sur France Inter.
J'étais très heureuse d'apprendre que Tom Tom Club allait sortir un EP 5 titres en janvier. Downtown Rockers contient les premiers morceaux originaux du groupe depuis 12 ans. J'ai demandé à Chris France pourquoi nous sommes restés si longtemps sans nouvelles.
Ce n'est pas exactement comme si on ne faisait rien du tout. On a produit d'autres groupes et on a fait quelques tournées. Notre credo est « ne faisons pas des choses juste pour brasser de l'air ». Donc on enregistre quand on trouve que c'est le moment de le faire. Il faut dire que personne n'est venu défoncer notre porte pour qu'on fasse un nouvel album de Tom Tom Club. Et vous savez, quand vous faites une carrière depuis 30 ans et des poussières, il y a forcément des hauts et des bas, des virages, et il me semble que tout va bien à présent.
Downtown Rockers, Tom Tom Club, Don Pop, etc. sur France Inter. Ils sont mes invités ce soir. La chanson rend hommage à la scène new-yorkaise des années 70 du sud-est de Manhattan. Des Velvet Underground, aux Talking Heads, en passant par Richard Hell ou Television. Pour Tina Weymouth, ces groupes poussaient les limites du rock. Ils innovaient et restent encore influents. J'ai demandé à Chris France s'il était nostalgique de cette époque-là.
Je l'appelle la nostalgie car c'est aussi important aujourd'hui qu'à l'époque. Vous savez, il y a pas mal de livres qui ont été écrits sur cette période. Le journaliste James Walcott en a écrit un très bien. Patti Smith, bien sûr. Il y en a d'autres. Mais que je sache, comme personne n'avait écrit une chanson, on l'a fait. Le bouquin viendra plus tard. On avait de la chance de vivre à New York à cette époque-là. Il y avait une véritable proximité entre ce qu'on appelait la scène uptown et celle du downtown. On était dans la place. On n'avait pas besoin de monter dans le Bronx pour chercher quoi que ce soit, car toute cette culture venait à nous dans le sud, downtown. Quand on a fait le premier disque de Tom Tom Club, on voulait faire un mélange de plusieurs genres. Un genre de disque que les DJ du Mud Club ou de la Danceteria ou pourquoi pas celui du Studio 54 joueraient. C'était de la musique pour discothèque. Ce n'était pas du disco, mais ça passait quand même dans les discothèques. On avait de la chance de vivre à une époque où c'était possible.
Les Talking Heads débutent dans les années 70 quand Chris Frantz et Tina Weymouth, déjà en couple, rencontrent David Byrne à RISD, l'école de design du Rhode Island. Ils descendent ensemble à New York où le quatrième membre, Jerry Harrison, ex-Modern Lover, se joint à eux. Le premier album, Talking Heads 77, sort, comme son nom l'indique, en 1977. Ce n'est pas si loin, mais c'était une autre époque. L'Amérique portait encore des stigmates de la ségrégation raciale. C'était le cas de la radio. C'est ce qui m'a expliqué Tina Weymouth en juillet.
Back in the day, in the... All right, we're talking now 1980.
Retour en 1980. Il y a Talking Heads et l'année suivante, en 1981, on démarre Tom Tom Club avec Chris. À cette époque, les radios américaines étaient encore formatées par race. Il y avait des radios noires et des radios blanches. Il y avait des chartes pour la musique noire, ceux pour le R&B, ceux de la musique commerciale, ou la pop qui était pour la plupart blanche. Nous avons percé avec Tom Tom Club dans les charts de la musique noire et le R&B, tandis que plus tard, Talking Heads perçait ceux de la musique blanche. Le groupe blanc du label Stax, Booker T and the MGs, a essayé de traverser les charts noirs et blancs dans les années 50 et 60, mais ce n'est pas arrivé réellement. Les radios n'avaient pas encore compris qu'on pouvait s'intégrer d'une manière interraciale. Prince essayait de faire la même chose. Il voulait intégrer le rock'n'roll blanc. Ça a pris au moins 20 ans, mais ça a fini par réussir.
La scène new-yorkaise downtown tourne autour de quelques lieux devenus mythiques, entre autres Max's Kansas City, un restaurant avec une salle au sous-sol où les groupes jouent, et CBGB's, le temple du punk. Le patron de CBGB's, Hilly Crystal, trouve les Talking Heads pas mal. Il les programme un lundi. Lundi est la soirée des auditions. C'est le mois de mai 1975. Ils font la première partie des Ramones. C'est le début d'une longue route avec ses faux frères du Queens.
My first time ever in Paris was as the support act for the Ramones.
La première fois que je suis venu à Paris, c'est quand les Talking Heads ont fait la première partie des Ramones. On faisait une tournée des capitales d'Europe avec eux. On a joué au Bataclan. C'était époustouflant. On a traversé le continent avec eux dans le même autocar. Ce n'était pas vraiment un autocar de tournée, c'était plutôt comme un bus urbain avec des sièges. Donc si tu voulais dormir, il fallait empiler les bagages dans le couloir pour créer une surface assez longue pour pouvoir s'allonger. Johnny Ramone nous disait « Je n'aime pas que vous changez de siège, tout le monde doit rester dans son siège attitré. » C'était un contrôle freak, il aimait tout contrôler. Par exemple, notre manager de tournée était un Anglais aguerri du nom de Mickey Stewart. Il nous dit « On va passer par Stonehenge aujourd'hui, vous aimeriez peut-être le visiter. » Et Johnny répond, non, on ne va pas s'arrêter pour garder un putain de tas de vieilles pierres. Didi Ramone lève la main et dit, mais Johnny, je veux voir Stonehenge. Nous disons, oui, nous aussi. Donc, on est allé voir Stonehenge et Johnny est resté dans l'autocar. Il devenait enragé envers Tina lorsqu'il n'était pas gentil avec sa petite amie et qu'elle la défendait.
Tommy
Ramone venait me voir pour me dire « Chris, il faut que tu éloignes Tina de Johnny, elle le rend fou. »
Johnny m'adorait à la fin. Il a compris qu'on était un soutien énorme.
Dans ce monde masculin du punk et de la scène arty new-yorkaise, Tina Weymouth est une des rares filles musiciennes. Elle est bassiste et avec son androgynie, ça jette. Car elle fait chanter sa basse. Ses références expliquent cela.
En tant que bassiste féminine, j'étais très inspirée par Carole Kaye, bassiste au sein des musiciens de studio The Wrecking Crew. C'est une pionnière et une de mes héroïnes.
All those wonderful, wonderful bass parts on,
par exemple, c'est elle qui a joué toutes les parties de basse fabuleuses sur Pet Sounds des Beach Boys.
She's known
Paul McCartney a déjà dit qu'elle était son bassiste préféré tout court. Moi, j'en ai plusieurs.
Paul McCartney is one, Carol Kaye is one, Bootsy Collins is another. James Jamerson
Paul McCartney, Carol Kaye, Bootsy Collins, James Jamerson de Motown en est une autre. J'ai des héros qui m'ont beaucoup appris. Et puis je continue à être inspirée par des jeunes, sans oublier Steve Cropper de Booker T and the MGs ou Donald Duck Dunn. Et comme j'étais aussi guitariste, flûtiste, carilloniste avant de jouer de la basse, j'écoute toutes les parties. Quand j'écoute un morceau, je n'écoute pas uniquement le chanteur. J'écoute tout.
That's just the way I'm made.
Je suis comme ça.
So for me, it's not just about the bass.
Pour moi, ce n'est pas que la basse qui compte.
The whole song and the band.
C'est toute la chanson, la totale, le groupe, le feeling, les rythmes, la mélodie.
It's a merging of African rhythms.
Ça pourrait être la fusion des rythmes africains avec des compositions de la musique occidentale.
Composition. For me, it's everything. So, and I think
c'est un tout, et pour Chris, c'est pareil. C'est ça la signature de Talking Heads. On n'a pas tout construit sur les bases du rock'n'roll ou le blues en 12 temps.
Et les dires de Tina Weymouth en juillet dernier prennent toute leur ampleur à l'écoute de l'album Fear of Music, sorti en 1979. Ce troisième album, le deuxième produit par Brian Eno, ouvre avec un ovni qui déstabiliserait plus d'une fan des Talking Heads. Le morceau s'appelle Isimbra. Ne cherchez pas le sens des mots de Isimbra, cette langue est une pure invention du poète dada allemand Hugo Ball. Jusqu'à la fin de leur collaboration en 1991, les Talking Heads vont continuer à explorer ces rythmes. Ils sont les prémices des métissages appelés plus tard la musique du monde. Tina Weymouth et Chris France ont tout le loisir de le faire, de faire ces explorations. Ils vivent là où ils répètent. C'est la fin des années 70, à deux pas de Manhattan.
Le but, dès le début, c'était d'avoir un endroit où on pouvait vivre et répéter. Au départ, on était sur Christie Street, au sud de Manhattan.
Il n'y avait pas de toilette.
C'était un peu dur, c'est vrai. Donc le frère de Tina, Ian Weymouth, qui est architecte et qui a travaillé comme designer en chef de la pyramide du Louvre avec Yao Ming Pei, habitait à l'époque à Long Island City. C'est lui qui nous a dit qu'il y avait un loft disponible dans son immeuble et qu'on devrait le prendre. C'est ce qu'on a fait. C'était formidable. Il y avait un grand ascenseur, genre monte-charge, qui s'ouvrait directement sur le trottoir, ce qui nous permettait de transporter notre matériel facilement. On pouvait répéter dans le loft car il y avait d'autres musiciens dans l'immeuble, comme Ernie Brooks des Modern Lovers et Don Cherry, le grand trompettiste de jazz. Il y avait toujours de la musique. On avait néanmoins une règle. Pas avant midi et pas après minuit. Donc on avait une fenêtre de 12 heures pour jouer. On a enregistré l'album Fear of Music là-bas avec le camion mobile du studio Record Plant qui était garé en bas dans la rue. Ils ont fait passer les câbles par les escaliers intérieurs et par l'escalier d'incendie. On a enregistré l'album en entier en deux jours, deux dimanches. Il fallait enregistrer le dimanche car c'était un quartier industriel et le passage des camions énormes faisait du bruit dehors. Mais le dimanche, c'était paisible. Le premier dimanche, on a enregistré, je crois, la totale, les 12 morceaux, et le second, on a recommencé. Comme ça, on avait plus d'une prise pour chaque chanson. Le mix a pris une éternité, mais l'enregistrement s'est fait en deux jours.
Life During Wartime, Talking Heads en 1979. Mes invités ce soir sont le batteur Chris Frantz et le bassiste Tina Weymouth du groupe Tom Tom Club. On a déjeuné ensemble à Paris en juillet dernier. Le temps de me raconter une grosse partie de leur histoire au sein de ces deux formations importantes. C'était pendant leur tournée européenne.
Pop, etc.
Pretty.
Avec Valley.
I understand what you...
sur France Inter.
Après la sortie de Remain in Light en 1980, Talking Heads se mettent au vert. Ce quatrième album est une étroite collaboration entre David Byrne et le producteur Brian Eno. Il précède le projet des deux hommes, Life in the Bush of Ghosts, qui sort un an plus tard et qui serait à l'orée de la world music. Pour Chris et Tina, c'est direction les Bahamas, retour au Compass Point Studios de Chris Blackwell, où Talking Heads avait déjà enregistré leur deuxième album, More Songs About Buildings and Food. Quand le reggae man et producteur jamaïcain Lee Scratch Perry annule ses séances dans ce havre de l'industrie musicale des années 80, Blackwell propose au couple de les reprendre. C'est le début d'une longue histoire musicale et amicale.
Il y avait deux studios à Compass Point à l'époque. Nous étions dans l'un et dans l'autre, il y avait l'enregistrement de l'album Nightclubbing de Grace Jones.
So they were all there, Sly, Robbie, Wally, Sticky.
Tous les musiciens étaient là, Sly et Robbie, Wally Badarou, Sticky Thompson, Barry White Reynolds, à qui on n'a pas demandé de jouer, car on a fait venir le guitariste Adrian Belew. Il y avait aussi Tyrone Downey des Wailers.
Il y avait aussi un Bahamien local qui jouait dans les hôtels, un guitariste rythmique insensé du nom de Monty Brown. Il jouait les rythmes funky dingues sur Genius of Love et Ruddy Rapping Hood. La rencontre avec Wally Badarou était totalement fortuite à Compass Point. Il était en studio avec Grace Jones, nous étions dans le studio B avec Tom Tom Club. Il avait les mêmes idées que nous avec Talking Heads, c'est-à-dire marier les polyrythmies africaines avec la musique occidentale européenne. Il a une formation de pianiste classique, il est africain, il vient du Bénin. Il est l'ami de Manu Dibango, il a produit Fela Kuti. C'est un formidable producteur, musicien et compositeur. Donc c'était fantastique de pouvoir devenir amis. Chaque année, quand on vient en France, on se voit et bien sûr, Dieu merci, il y a Internet.
Hey Wally, come over. Et c'était comme ça, ça a démarré comme ça. Et beaucoup de choses se sont passées comme ça à Nassau. En réalité, eux, ils étaient plus connaisseurs de ce que je faisais, puisque on parlait de pop music, et pop music, qui est un morceau sur lequel j'avais travaillé deux ou trois ans auparavant, en 79, les avait beaucoup marqués. Et longtemps après, David Byrne aussi m'en a parlé comme étant vraiment une sorte de turning point dans la new wave de l'époque. Et donc, effectivement, on recherchait les mêmes choses, sans même vraiment savoir, mais de part et d'autre de l'Atlantique. Parce que moi, je n'étais pas encore à New York, donc je ne voyais pas vraiment ce qui se passait. J'étais confiné à Nassau, sur cette île assez isolée, et ce n'est qu'après, vraiment, que j'ai compris. C'est-à-dire, quand je dis après, c'est vraiment très longtemps après, 90 par là, que j'ai commencé à vraiment prendre la pleine mesure de qui était Talking Heads, qui était tout ce mouvement-là.
Comme vous, vous aviez l'idée de mettre les rythmes venus d'ailleurs, quand on parle de la musique pop. Talking Heads a fait ça en 79 avec Izimbra. Et vous, de votre côté, vous faisiez un peu la même chose.
Oui, en même temps, moi, c'est beaucoup plus facile puisque je viens d'ailleurs. Donc, naturellement, moi, je me l'ai même sans même trop me rendre compte. Je prétendais vouloir mettre de la musique symphonique carrément dans du rock, si je pouvais, de la musique, aussi bien que la musique africaine, puisque forcément, elle m'habite. Et eux cherchaient justement à africaniser, à tribaliser, à ethniciser un peu leur rythme et tout. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est croisés, quoi. Moi, j'ai toujours pensé que le succès, quelque part, c'est vraiment la croisée des chemins. Toujours. Mais je sais que si Tina était là, elle serait d'accord avec moi. C'est des gens qui se rencontrent en cherchant pas forcément les mêmes buts et qui finalement s'aperçoivent qu'ils fabriquent un matériau intéressant de manière pas du tout planifiée. Parce que quand j'étais à Nassau, c'est pas eux qui m'ont invité à Nassau, c'était Blackwell qui m'avait invité. Et le fait d'être à Nassau a créé tous ces croisements. Et l'un des plus intéressants, c'était effectivement Talking Heads et Tom Tom Club.
Bonjour, nous sommes Tina Weymouth et
Chris France.
Et nous sommes de Tom Tom Club dans Pop, etc.
Burning Down the House, extrait de l'album Speaking in Tongues des Talking Heads, sorti en 1983 et enregistré en grande partie dans les Bahamas au Compass Point Studios avec le musicien Wally Badarou qu'on vient d'entendre, un des précurseurs de l'utilisation des synthétiseurs dans la musique pop. C'est grâce à cet album, aux morceaux illustrés de polyrythmie mais plus structurés pop, que le groupe décroche son plus gros succès. Ils repartent en tournée et Jonathan Demme les capte pour le film Stop Making Sense. D'une manière générale, les projecteurs sont braqués sur David Byrne. Pour le public et les médias, c'est lui la tête pensante des Talking Heads. Ça ne simplifie pas toujours la relation avec les trois autres membres. Tina Weymouth explique.
Nous avons toujours parlé de David Byrne comme d'un génie car on ne voulait pas qu'on dise que c'était un débile.
You know? I mean, it was just
d'imaginer que Talking Heads était le fruit de quatre personnes était une notion complexe et compliquée. Et c'était plus facile de dire « Oh, on a un génie, Byrne, et c'est un performeur hors pair, un chanteur fabuleux qui écrit des paroles formidables et qui joue merveilleusement bien de la guitare rythmique. » Chris et moi sommes la moitié de Talking Heads. Nous sommes la section rythmique qui est la partie très importante de ce groupe. C'est celle qui fait danser. Vous savez, nous écrivions les tubes ensemble, Burning Down the House, Life During Wartime, Once in a Lifetime, les arrangements pour le morceau d'Al Green, Take Me to the River, qui était notre premier tube national.
Psycho Killer,
toutes ces merveilleuses chansons, on les a écrites ensemble. C'était une alchimie formidable, une super collaboration. On était vraiment désolés quand David Byrne n'a plus voulu continuer. On pense encore aujourd'hui qu'il aurait eu plus de succès en tant qu'artiste solo s'il prenait 2 mois tous les 2 ans pour travailler avec Talking Heads. C'est dommage qu'il n'ait pas vu les choses ainsi. Mais vous savez, il a eu 30 ans, on avait trouvé notre rythme de travail et c'est comme s'il était devenu un vieil homme.
Rip Van Winkle, he was 100 years old.
Il a eu 100 ans et il voulait faire de la musique pépère, genre les accordéons ou des orchestres qui auraient interprété Psycho Killer.
And you know, have accordions do Psycho Killer, you know, and orchestras play Psycho Killer.
Il n'y avait plus l'énergie originelle. Ce n'est pas pour le critiquer, mais pour lui dire, allez David, nous savons à quel point tu peux être bon. Allez, redeviens ce type de nouveau.
Come on, be that guy again.
Pop, etc.
Psycho Killer, qu'est-ce que c'est?
Avec Valley sur France Inter.
Mais la route tourne. Le premier album de Tom Tom Club fait un carton grâce aux discothèques. Le single Wordy Rapping Hood se place dans les charts de 17 pays et Genius of Love est disque de platine dans autant de pays. Or, Talking Heads n'ont jamais fait un véritable tube. J'ai demandé à Chris France ce que les autres membres de Talking Heads, dont Jerry Harrison et David Byrne, pensaient de cette réussite inattendue.
Je ne pense pas que ça dérangeait Jerry, mais je ne suis pas sûr que David était très content de notre succès. En revanche, je pense que ça lui a mis dans la tête un « peut-être que Chris et Tina savent quelque chose que je ne sais pas ». Ça a le mérite d'avoir gardé les Talking Heads ensemble pendant 10 ans, chose qui ne serait certainement pas arrivée sans ça.
Ladies and gentlemen, it's now the time. For the Grandmaster Flash and the Furious Five MC.
We're coming.
Get nasty with your baby. I ain't doing that.
chiefs of relief can tame a wild beast. The finesse of the West, the masterpiece of the East.
The boss of cars,
the lord of the board.
The ones with the platinum vocal cords.
With the science of desire,
with a magical might.
The monarch of the dark in the night of light.
We advertise
and specialize
in the exercise that will energize
the young lady's thighs.
Cause all the fly guys,
nature's arise right before the rise.
With the Earl of the Wild
and the heir of Flair.
Grandmaster Flash and the Furious Five en 1982 et Mariah Carey en 1995. Deux exemples des cinquantaines de reprises ou samples de Genius of Love écrits par Tom Tom Club et enregistrés avec la participation des Compass Point All-Stars en 1981. Chris Frantz et Tina Weymouth, entre une bouchée de penne aux champignons pour elle et une bouchée d'entrecôte pour lui, racontent la genèse de ce tube mondial.
La chanson a été inspirée par un morceau du groupe Zap qui s'appelle More Bounce to the Ounce. Il y avait un super feeling, vraiment funky, mais un peu lent. Plus lent que des morceaux up-tempo de dance. C'était un morceau à multiples utilisations. Pour la danse et la romance. On a pris le morceau comme point de départ. Il y a une similitude avec la batterie. Ce n'est pas exactement pareil, mais s'en est inspiré. Tina a trouvé la ligne de basse et puis...
On a fait la partie du clavier ensemble.
Et je crois que Tina a fait... Et moi j'ai ajouté au milieu et c'est devenu...
And I remember Jerry Harrison saying to me, "How did you think of that?"
Je me souviens que Jerry Harrison m'a dit, "Comment avez-vous pensé à ça, lui, le formidable claviériste?"
And we were like, "Well, we didn't really think about it that much."
On lui a répondu, "On n'y a pas vraiment pensé."
Then we added the
vocals. Et puis c'était les voix.
And the vocals were.
Si je me souviens bien, je crois que c'est moi qui ai trouvé le titre Genius of Love. À l'époque, tout le monde disait « ce mec-ci est un génie, ce mec-là est un génie », alors je me disais
«
je suis un génie de quoi ?»« Je suis un génie de l'amour ». Donc c'est moi qui ai trouvé le titre et Tina est partie comme une flèche pour écrire les textes.
Ça ne s'est pas passé comme ça. Ah non, darling, il faut que je te contredise. J'ai écrit trois couplets et pour le dernier, je me suis dit « comment je vais terminer ? Comment va-t-on conclure ?» Et toi, tu as dit... Pourquoi tu ne dis pas « Il est un génie de l'amour » Et moi, j'ai dit « Oh, ça, c'est parfait. Tu es un génie d'y avoir pensé. »
Yeah.
흔들어시키긴 들어와야 뭐하는
Genius of Love, Tom Tom Club, un des morceaux les plus simplés des années 80. Chris Frantz et Tina Weymouth m'ont annoncé qu'ils avaient créé un nouveau groupe, un duo, un Small Mobile Intelligent Unit, une petite unité mobile intelligente, pour citer Tina qui citait Robert Fripp. Ils s'appellent Chris und Tina, en hommage à Kraftwerk. Ce duo leur permettra de travailler, tourner et voyager léger et économique. Ils ont déjà écrit quelques morceaux. Chris Frantz et Tina Weymouth ont une vraie sens civique pendant notre entretien. Tina a martelé un message destiné aux jeunes artistes. Il faut protéger vos droits d'auteur, ce sont eux qui permettent de continuer à créer. C'est aussi un couple de cœur. Ils ont participé à une chanson pour les habitants de Newtown, Connecticut, cette ville qui est à 10 minutes chez eux. Ce n'était pas pour récolter des fonds, mais pour donner un gros câlin collectif aux familles en deuil, m'a dit Tina. Je les remercie infiniment de m'avoir consacré autant de temps et de m'avoir invité à déjeuner. Kissing Antonio est un extrait de Downtown Rockers de Tom Tom Club sorti chez Ear Music. Merci beaucoup à Wally the Prophet Badarou et DJ Benoît. Pop etc. fait une pause. Je me consacre à mes soirées musicales du samedi. D'ailleurs, je vous retrouve demain soir pour le prix du premier album francophone. Ce n'est qu'un au revoir. Cette émission a été réalisée par Céline Hilla avec Philippe Duclos et préparée par Corinne Valente. Merci à Stéphanie Fromentin et Eric Osval pour les voix de Chris and Tina. Merci Djoubaka. Très bonne soirée sur France Inter.